Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Frédéric Lopez, bonjour. Donc on est aujourd'hui sur les Amanins, un site dans la Drôme, un site école. D'ailleurs, il y a une école. On essaie de repenser l'éducation autrement, peut-être sur des valeurs différentes, un peu moins sur la compétitivité, mais plus sur la complémentarité ou la coopération. C'est aussi un site école dans le sens où ici, on peut venir faire des stages, découvrir l'agroécologie. Et aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête des Amanins avec un programme chouette, différents intervenants. Tu as fait partie aujourd'hui d'une intervention en présence de Pierre Rabhi et de Corinne Lepage. Et donc on va revenir pas forcément sur ce qui s'est dit, mais sur ta présence ici. Comment est-ce que tu atterris ici, dans ce lieu, Baba Cool, comme tu le décris?
Je dis Baba Cool, c'est une formule que je sais hors micro. Maintenant, si tu veux que je dise ce que ça veut dire, c'est que je suis très très heureux d'être là. Je devais rentrer sur Paris et je suis resté. C'est la preuve que je me sens bien. En fait, le hasard de la vie veut que dans un RER, il y a 8 ans, j'ai croisé un garçon qui s'appelait Olivier. On s'est mis à se parler, j'ai oublié pourquoi et qui comment, mais en tout cas, on a parlé d'un sujet dont je me souviens encore 8 ans plus tard, même si je ne me rappelais pas de son visage. C'est qu'en fait, moi, je créais en terre inconnue et lui venait de faire des voyages équitables. Enfin, il se posait la question. Et donc, tout ça a été lié. On a eu une longue conversation sur cette question et je voyais qu'on était assez raccord. Voilà. Et puis, 8 ans plus tard, il a appelé, il est passé par mon assistante et je suis amené à devoir donner des réponses toute la journée sur des demandes différentes. Et j'ai malheureusement pas le temps de faire les choses, donc c'est vrai que c'est souvent non. Mais là, comme il y avait la connivence dont on s'est rencontrés, il y avait quelque chose de curieux, je voulais savoir ce qu'il faisait. Et il est tellement passionné et passionnant que bon, voilà, je me suis retrouvé là très naturellement. Donc c'est l'idée d'une rencontre en fait. C'est jamais autrement la vie finalement. Et voilà, je me suis retrouvé là pour cette raison-là. Il a fallu qu'il arrive à me convaincre de ma légitimité. Parce que Pierre Rabhi est quelqu'un de très impressionnant. Je connais quasiment tous ses écrits. Et j'ai épousé sa cause depuis longtemps sans le savoir. Puisque j'ai la chance de voyager partout dans le monde. Et je me suis rendu compte que les gens au bout du monde disaient la même chose que lui. Et donc aux côtés de Corinne Lepage qui avait été ministre, députée européenne, qui est dans l'action finalement. Même si l'action politique nous embête parfois, mais enfin, il faut agir, elle a un point de vue sur la société qui est très intéressant. Et ben, je me suis demandé ce que je faisais là, et puis j'ai accepté avec finalement une forme d'humilité de raconter mon expérience, ce que j'ai découvert, et finalement en le racontant, parce que moi je suis habitué à poser des questions, pas à raconter, et ben, je me suis rendu compte que, après tout, c'est, voilà, on n'a jamais tort d'être soi-même, c'est mon histoire, et c'était quelque chose de très fort de le transmettre à des gens qui étaient réceptifs. Et moi, je me rends compte que je me sens souvent seul à Paris, dans le milieu dans lequel je vis, parce que tout le monde n'est pas animé par les mêmes choses, les mêmes valeurs. Alors, c'est un combat. Je suis très entouré. Hein. Mon associé, c'est mon ami d'enfance. J'ai la chance d'avoir les mêmes amis depuis toujours et tout. Mais on peut pas dire que je suis entouré de gens qui mènent le même combat. Donc, finalement, j'hésitais à venir parce que parler à des gens qui étaient déjà convaincus, ça m'intéressait pas tellement. Et finalement, Olivier m'avait dit quelque chose qui était vrai. C'est tu verras ce que tu ressentiras, finalement c'est une petite piqûre de rappel, ça conforte en fait. Et donc toutes ces idées un petit peu révolutionnaires mais qui ne devraient pas l'être, eh ben, l'idée d'être entre soi finalement, ça permet d'avoir de la force. Et je repars d'ici avec beaucoup beaucoup de force.
On va en parler de ces idées, mais j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette légende, la légende du colibri. Est-ce que tu pourrais me la raconter avec tes mots?
Alors, on me l'a raconté, donc je ne sais pas si je la raconte bien, mais en tout cas c'est une image que j'aime beaucoup et j'ai une autre image qui dit la même chose. Donc le colibri, d'après ce qu'on m'a dit, c'est l'histoire d'un incendie de forêt où chacun va essayer de l'éteindre et le colibri, qui est l'un des plus petits oiseaux du monde, je crois, avec son petit bec, va être presque ridicule avec sa goutte d'eau. Simplement, c'est sa contribution. Et c'est une notion que j'adore. Parce que on est souvent noyé, on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan finalement, que nous, à notre niveau, on ne peut pas changer le monde. Sauf que oui, en vérité. Bien sûr que Gandhi peut plus changer le monde, on va dire, que parce que c'est un leader, que quelqu'un qui va avoir une vie plus ordinaire en apparence, mais au fond, on a tous la possibilité de contribuer. Et l'autre image que j'aime beaucoup, c'est un conte qu'on m'a raconté, on va imaginer ça sur une plage, sur une île grecque, et il y a une vieille dame que j'imagine habillée en noir, qui est sur la plage, et qui très lentement, très péniblement, fait des allers-retours parce qu'il y a eu des étoiles de mer qui ont échoué. Et en fait, elle passe son temps à ramener les étoiles de mer une par une, à faire tout le trajet jusqu'à la mer. Et là, il y a une bande de jeunes qui la regardent, qui disent « Mais madame, vous faites quoi? Ça sert à rien !» Et elle a une étoile de mer dans la main, elle les regarde, elle dit « Pour elle, si. » Et c'est la vérité, au fond. C'est la vérité. Et on n'est pas tous aussi utiles dans notre vie à tous les moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut parler à 3 personnes, des moments où on peut parler à des millions de personnes, ça m'arrive. Et puis des fois, un seul sourire suffit. Sauver une vie, ça suffit. Provoquer une prise de conscience, c'est déjà ça. Donc c'est une notion que j'adore, qui est pleine d'espoir.
Dans l'histoire des étoiles de mer, c'est vrai que ça peut changer complètement le destin d'une personne quand tu vas lui adresser un sourire, une attention, une parole chaleureuse. Dans l'histoire du colibri, il y a un élément, c'est la forêt qui brûle. Ce feu, pour toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu vois autour de toi qui brûle? Parce que quand on regarde autour de nous, on n'a pas tellement l'impression que le monde tourne pas rond. Alors que si on commence à se poser les bonnes questions et agir en conscience, on se rend bien compte qu'il y a un dysfonctionnement à différentes échelles, différents niveaux, que ce soit politique, économique, social. Tu parlais avant du sourire, on a parlé beaucoup du bonheur aujourd'hui. C'est peut-être finalement ça qu'on aimerait tous atteindre, c'est être heureux, et on se rend compte qu'on en est encore vraiment très loin. Donc cet incendie, toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu vois comme dysfonctionnement et quelle est la part, quelle est la goutte d'eau que tu aimerais, ou quelle est l'étoile de mer? Qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer?
Je crois que on est tous d'accord, d'abord ici, mais finalement un peu partout dans le monde, je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée que le monde occidental marche un peu sur la tête. Quand j'étais petit, il y avait la guerre froide, donc il y avait des idéologies qui s'affrontaient. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologies qui s'affrontent, il y en a une seule qui triomphe. Et bizarrement, cette idéologie du consumérisme, du capitalisme, du libéralisme, etc., sans porter de jugement politique, elle est en crise. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est marqué dessus, d'accord ? Elle est en crise, c'est marqué dans tous les journaux. Donc, ce système qui est en crise, qui est donc malade, est en train de continuer de se répandre. Et là, ça me touche parce que c'est des populations qui ne sont pas touchées, qui sont vraiment pas grand-chose sur la planète. Aujourd'hui, c'est plus que 3% de la planète. Et c'est ceux que je rencontre. Et ceux que je rencontre disent des choses tellement fortes, tellement puissantes, que des gens dans des laboratoires d'Harvard vont découvrir. Alors, c'est les gens les plus cultivés de la planète qui découvrent ce que des analphabètes me disent au bout du monde. Donc, ces gens-là ont à nous parler de nous. Et donc, l'incendie de forêt, pour prendre la métaphore, c'est l'idée que le monde occidental vit dans un système qui n'est pas là pour le bonheur. Et je crois savoir, et j'ai pas pu le dire tout à l'heure, j'ai oublié, que Keynes, un des deux théoriciens du capitalisme avec Adam Smith, lui-même l'avait dit. Lui avait dit, en faisant la promotion de ce système, attention, je vous parle d'un système qui va s'auto-générer, mais qui va pas provoquer le bonheur des gens qui le composent. Même lui, il l'avait dit, c'est marqué dessus. Donc c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et après, bon ben voilà, moi j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir plein d'expériences. J'ai fait du marketing, on m'a appris à créer des besoins, donc j'ai vite arrêté parce que je voyais pas le sens de tout ça. Après j'ai fait du journalisme, on me parlait des trains qui arrivent. Il fallait pas parler des trains qui arrivent à l'heure, il fallait parler que des problèmes. Donc je considérais que pour le moral des gens, c'était pas terrible. Et donc il y a plein de choses. On peut pas dire il y a un incendie. Il y a une forme de cynisme en Occident qui est un peu tristoune. Il y a une forme de ricanement permanent qui est un peu tristoune, surtout dans notre pays. L'argent qui a pris une place incroyable puisqu'il a pris toute la place. Il y a la question de la célébrité, je fais exprès d'en parler parce que je suis bien placé pour en parler, puisqu'aujourd'hui les gens veulent devenir des nouvelles stars, il y a des émissions qui portent ce nom. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le rêve absolu, puisqu'on filme les gens au moment sur leur chemin, vous savez, alors comment ça va se passer? J'espère que l'IO va aimer ma chanson. Et d'un coup, il y a des jingles, waouh, elle a aimé sa chanson, et peut-être même il va gagner, donc il gagne le Graal. Et le Graal, c'est être célèbre. Alors ça, c'est un autre sujet. Donc on va voir que toutes ces valeurs-là, et puis ça se résume quoi sur le bonheur qui est bon, être ou avoir, quoi, la fameuse question. Donc bon, je crois que ça a été prouvé, les gens ont un peu compris. J'ai tendance à être optimiste de nature et j'ai tendance à penser que tout ce que je pense, tout le monde le pense. Donc en fait, je me dis, bon ça va, tout le monde a compris que ça rendait pas heureux de posséder. Il y a des études qui ont montré combien de temps vous êtes heureux quand vous achetez une télé. Ça dure pas longtemps. Hein. Même quand vous gagnez l'auto, on sait bien que si vous gagnez des milliards, vous allez être heureux, en tout cas ça va modifier votre état pendant un mois. Bah, dis donc. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui ne va pas? Un système de valeurs, des priorités, une société dans laquelle ce qui compte c'est la compétition. Donc c'est totalement absurde puisque partout dans le monde où j'ai été, ce sont des communautés qui sont toujours ensemble, hyper liées, où c'est de la coopération, ce que dit Pierre Rabhi. Donc voilà, l'Occident. Et alors le résultat, il est très intéressant parce que plus une société est riche, plus elle est dépressive. Ça aussi, c'est très connu. C'est pas par hasard si on est recordman du monde des antidépresseurs. Donc on a envie de se dire, mais c'est quoi? Évidemment qu'il y a une urgence. Et je pèse mes mots, il y a une urgence de changer de système. Mais encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir un... je pense à cette idée qu'on peut tous changer le monde. En tout cas, il faut d'abord changer son monde. Alors je le fais autour de moi. C'est-à-dire qu'en fait, autour de moi, je propose de faire des moments de silence comme le faisait Olivier tout à l'heure qui animait le moment. Autour de moi, je propose aux gens de connaître leurs voisins parce qu'on a peur d'aller vers les autres. Vous savez pourquoi? Là aussi, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un être humain? Des études l'ont montré. C'est le rejet. Voilà. On a peur d'aller voir les autres parce qu'on a peur d'être rejeté. Parce qu'on a tous, entre le moment où on est né et le moment où on est aujourd'hui, on a tous été rejetés à un moment donné. Et cette charge émotionnelle est tellement négative qu'on n'a pas envie de la revivre. Donc on se referme. Alors après, il y a des peuples qui vont plus vers les autres. On voit les Américains, hi, hard ring. Mais on sait bien qu'ils ouvrent les bras mais qu'ils ne les referment pas. Donc tout ça est complexe.
Mais aussi ce côté très individualiste aujourd'hui qui nous referme sur nous-mêmes et qui nous empêche d'aller vers l'autre. On a appris à développer, on a sa maison, sa piscine, sa voiture, ça, et on n'apprend plus forcément à partager. Et puis à l'école aussi, on est dans l'avoir, on a les notes, hein. Il faut être meilleur que ton voisin, t'as un 14 c'est bien, t'as un 10 t'es mauvais. Voilà, donc on est toujours dans cette comparaison avec l'autre, ce qui a fait que peut-être on s'est aussi isolé et on n'est plus dans cette complémentarité et puis dans le tous ensemble, ce que tu retrouves sûrement dans les populations que tu rencontres lors de tes différents voyages.
Tu poses des questions très longues et tu as raison parce que tu notes ton avis et je vois qu'on est d'accord. Effectivement, j'ai envie de te dire, effectivement, tu as raison.
Donc heureusement, on a des messagers, enfin il y a des gens qui ont une parole qui porte. On parlait de Pierre Rabhi avant. Tu vas à la buvette là, sur les Amanins, t'as écrit « Sobriété heureuse ». Ça, c'est un super concept.
Oui, sauf qu'à la buvette, la sobriété, c'est compliqué.
Il y a de l'eau, hein. Non mais voilà, tu disais aussi dans un avion, je sais plus lequel, hein, sur quel aller-retour t'as offert ce bouquin. Donc voilà, on a aujourd'hui des gens qui sont là pour nous montrer qu'il y a d'autres manières d'accéder à un bonheur qui n'est pas matériel. Et les gens commencent de plus en plus à y adhérer, en tout cas j'ai l'impression. Et c'est peut-être aussi ce que toi tu perçois dans tes différents mouvements d'une population à une autre.
Moi je suis optimiste, donc je sens ça, je sens cette prise de conscience, elle est lente. J'ai demandé à Pierre Rabhi hors micro tout à l'heure. J'ai dit, il y a une question, j'ai un milliard de questions, mais il y a une question que j'aimerais vous poser, mais j'ose pas la poser devant le micro, devant tout le monde, parce que la réponse, elle est très dangereuse. Si vous répondez non, c'est une forme de désespoir. Je voulais savoir si depuis le temps qu'il prêchait la bonne parole, est-ce qu'il était optimiste ou pessimiste, est-ce qu'il a le sentiment qu'il y a un progrès? Alors il m'a répondu qu'en fait, oui, il y a de plus en plus de prise de conscience, mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui font n'importe quoi aussi. Donc la réponse était un peu mitigée. Mais ça n'empêche pas de continuer le combat. Et puis au fond, des fois, ce qui rend triste, c'est d'imaginer qu'il n'y aura pas de fin de combat. Mais ce qui rend joyeux, c'est d'imaginer que qu'est-ce que c'est chouette de se battre pour ce genre de cause aussi. Et que dans l'existence, finalement, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Donc j'incite tout le monde à être les ambassadeurs de ça, de ces valeurs.
Du changement.
Du changement. Et on peut tous. Moi, j'ai un ami qui s'appelle, j'ose dire qu'il est ami parce qu'il a dit qu'on était amis, Alexandre Jolien, qu'on appelle le philosophe handicapé. Et lui, il fait quelque chose avec ses enfants que j'adore, j'ai jamais osé le faire. Parce que j'ai peur du rejet. Et puis la notoriété modifie un peu les choses. Mais lui, il va dans l'autobus avec ses enfants et ils offrent un livre à la personne qu'il trouve la plus triste du bus. C'est très spécial, hein, parce que c'est une perception, surtout cette personne était pensive. Mais en tout cas, je trouve ça super beau. C'est la question du don, c'est la question de la gratuité, c'est la question du lien, c'est la question du sourire. Vous imaginez ce qui se passe dans le bus à ce moment-là. Il me l'a raconté, mais je l'imagine facilement. Et puis surtout, il le fait avec des enfants. Donc ça veut dire que ses enfants auront grandi avec cette idée et ça, ils l'oublieront jamais. Donc, nous qui sommes parents, on a le pouvoir d'emmener nos enfants en randonnée, de leur faire découvrir la nature alors qu'ils sont devant des écrans tout le temps. Moi j'ai un fils qui était adolescent, maintenant il a 18 ans. Et ben c'est vrai que j'étais inquiet, je me disais mais il passe sa vie dans ce monde virtuel alors qu'il y a tellement de choses à côté. Ben, c'était à moi, au lieu de l'engueuler, de l'emmener voir autre chose. Ce que j'ai fait évidemment. Et d'un seul coup, il kiffe de marcher 10 jours, 33 bornes par jour. Moi je voudrais me reposer au bout du troisième jour. Il dit ah ben non, on avait dit qu'on le ferait. Donc finalement, c'est pour ça que je suis optimiste, parce qu'il suffit de goûter en fait, il suffit de goûter à autre chose. Il suffit de goûter à une soirée sans télévision, il suffit de goûter à une soirée où on chante avec des potes, et en fait, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus intéressant. Il n'y a pas grand-chose de plus intéressant sur Terre que de partager avec les autres, a priori des trucs joyeux, mais du rire, encore une fois, des chansons, du silence, des blagues, des idées, enfin voilà, partager. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, hein, de toute façon, donc c'est bien.
Pourquoi j'ai jeté les hommes à la couleur de leur peau, alors que le Tout-Puissant nous a créé tous égaux? Pourquoi y a-t-il des gens qui pensent être nés différents? Encore tant d'hommes se battent pour leur liberté, alors que le Créateur nous a fait libres et légers comme le vent. Le vent nous combattons nos tyrans. Pourquoi la cupidité? Pourquoi je devrais les suivre alors qu'ils veulent me manipuler?
Ouais, pourquoi? Éclaire-moi. Ouais, dis-moi pourquoi tant d'hommes se sont fait massacrer pour un morceau de terre qui ne sera jamais leur propriété. Pourquoi ils croient hein, être les maîtres de chaque endroit?
Et toi, sur ton chemin, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu te poses des questions et tu te rends peut-être compte que ben, le bonheur n'est pas dans ce qu'on te prétendait être et puis que la voie qu'on nous montre, c'est peut-être pas la meilleure pour l'homme et la planète?
Moi, j'ai vécu une enfance un peu difficile parce que j'avais un père qui était un peu sévère, pour utiliser un euphémisme, et donc j'ai pas connu vraiment la bienveillance dans mon enfance. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à tourner les talons, à m'affranchir de tout ça, du coup, j'étais très sensible à la bienveillance, j'étais très sensible au lien. Mais même la boulangère qui disait bonjour, comment allez-vous? On m'avait pas encore demandé comment j'allais. Hein. Donc finalement, c'est ça qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai complètement switché, c'est-à-dire que mon cerveau a été formaté de manière très étrange pour ne voir que le meilleur. Mes détracteurs, parce qu'il y en a plein, ils disent que je vis dans le monde des bisounours. C'est un peu vrai, parce que quand je vois quelqu'un, je vois que le meilleur. Et d'ailleurs, quand les gens, je leur parle, ils croient que je leur fais des compliments. Mais en fait, non, je leur dis comment je les vois. Et d'ailleurs, malheureusement, 90% des gens n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Donc du coup, ils voient pas ce que je vois. Donc finalement, comment j'ai fait? Je crois que c'est une enfance un peu triste qui fait que du coup, j'étais plus sensible à la question du bonheur. Alors après, j'étais dans une quête. Alors c'est très dangereux parce que quand on est dans une quête, on est dans le mouvement. Et donc, le bonheur, c'est souvent quand on est posé. Et j'ai fait des émissions à la télévision en 2000, en 2014, 2013, pardon, qui sont les plus gros échecs de ma vie, mais que je regrette évidemment pas. D'abord parce que l'échec, je conseille à tout le monde. Mais l'échec, c'était quoi? C'était l'idée que, quoi? Ça peut ne pas marcher et on continue de me parler, on me jette pas des tomates, j'ai le droit de respirer. Donc ça, c'est chouette. Un échec, c'est le plus grand booster que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai vécu le succès, des succès fulgurants, et c'est extrêmement angoissant. Parce que vous sentez des attentes et ça vous fait mal au ventre. Donc c'est toutes ces expériences-là. Donc la raison, c'est mon enfance. Ensuite, c'est l'expérience. Ensuite, c'est... Moi, j'étais phobique de la solitude quand j'étais jeune. Alors, j'aimais être avec les autres. Je partageais tellement, j'étais connecté. Moi, j'étais connecté à tout le monde. Je pouvais faire l'amour avec tout le monde. C'était pas le cas, hein, rassurez-vous. Mais c'était le principe même. J'aimais rendre heureux les gens, j'aimais quand on rit ensemble. Vous savez, quand je vais au bout du monde, en terre inconnue, je filme rien d'autre que le lien. On part dans un huis clos, on est dans le désert, mais il y a trois cases. Et puis après, je filme des gens entre eux, qui font connaissance, qui se découvrent, qui vont au-delà de leur peur. Donc mon kiff aujourd'hui, c'est de faire partager ces messages. En terre inconnue, c'est une manière de dire, n'ayez pas peur des autres. Quand je fais un émission, ce qu'appelle la parenthèse inattendue, je réunis trois stars dans une maison. C'est pas trois stars qui parlent d'elles parce qu'on n'est pas dans l'exhibition, on est dans la transmission. C'est trois êtres humains qui racontent d'où ils viennent, comment ils ont rêvé, comment ils ont réalisé leurs rêves. Et ça booste, vous n'imaginez pas. Les gens, là, quand je leur apprends que l'émission s'arrête, je me fais presque agresser. Parce que, au-delà du fait qu'on est bien quand on est authentique, parce que ces gens-là sont authentiques à ce moment-là, c'est parce que ce qu'ils disent, c'est presque révolutionnaire. C'est quoi? Il suffit de rêver pour les réaliser, les rêves. Ah oui, il y a deux, trois trucs à savoir, hein. Le premier truc à savoir, c'est un, c'est une étape que tout le monde rate. Comment réaliser ses rêves si on n'a pas de rêve? Mon fils qui était enfant et logique, il me disait « Ah bah oui, c'est logique. Bah oui, si on n'a pas de rêve, donc déjà c'est rêver. » Et les gens rêvent pas assez, je trouve. Souvent je leur dis « C'est quoi ton rêve ?» On me dit « Oh, moi j'ai un petit rêve. » Et c'est gratuit. C'est pas la peine qu'il soit petit. Donc déjà, un, rêver. Deuxièmement, la méthode simple, c'est « qu'est-ce qui me sépare de ce rêve ?» Alors je voudrais être chanteur et chanter au Carnegie Hall de New York. Je dis n'importe quoi. Déjà, il faudrait peut-être que je prenne des cours de chant. Donc je vais commencer par ça. Et puis dans les cours de chant, c'est marrant parce qu'il y a un mec qui va dire « Tu sais quoi, nous on fait une chorale ?» Super. Et puis il va dire « Ah, tu sais quoi, mon cousin il est pizzaïolo et en fait, il voudrait faire une soirée pour la fête de musique. » Ah super, on va chanter. Et puis dans ce restaurant, il y a un producteur. Je dis n'importe quoi, mais la vie c'est ça, c'est pas autre chose. Moi je l'ai vécu tellement. Donc voilà ce que j'ai envie de transmettre. C'est l'idée que le monde dans lequel on vit peut faire peur parce qu'il est complexe. Il faut lire le dernier bouquin de Mathieu Ricard qui fait 900 pages, dont 200 pages de référence. J'en ai lu 500. Et c'est des données scientifiques. C'est très dommage, je lui dis à la radio sur France Inter, c'est dommage qu'il soit bouddhiste parce qu'il n'est pas crédible pour certains. Mais les données sont objectives. Le monde va de mieux en mieux. En fait, objectivement, il y a moins de conflits que jamais. En France, par exemple, au je sais plus quel siècle, allez, on va dire 18e, il y avait je sais plus combien de mecs qui mouraient, vous savez, à cause des duels. Et donc aujourd'hui, par meurtre, il y a beaucoup moins de gens.
Donc là, tu parles par rapport aux pertes humaines. Après, le monde va de mieux en mieux. Si tu regardes au niveau planétaire, je prends là l'échelle écologique. Non, c'est pas vrai.
Alors, on peut parler de tous les sujets. Donc, je vais revenir. Vivre sur cette terre aujourd'hui, le monde est plus clément aujourd'hui qu'avant. Okay. Donc ça, c'est sûr. Et il y a des gens qui ont accès à l'eau et des gens qui ont... Voilà. Donc ça, c'est très important. Qu'il soit parfait, le monde, évidemment que non. Et quand on est sur cette terre, si on n'est pas concerné par les inégalités, c'est qu'on a un problème, on a un pète au casque. C'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de ne pas voir les inégalités, mais laissez tomber, quoi. Il a même pas, j'ai envie de dire, d'intérêt. Cette personne n'a pas d'intérêt. Et c'est pas la majorité.
Bon, un, rêver. Deux, interpréter son rêve, se donner les moyens d'y arriver. Trois, c'est quoi?
Eh ben, trois, c'est qu'en fait, le collectif est très important. C'est-à-dire que réaliser son rêve pour soi, ça veut pas dire grand chose. Donc, en fait, quand on dit son rêve, bon, bah, peut-être que c'est devenir chanteur, mais vous savez, un chanteur, on se dit, tiens, c'est égoïste. Mais n'oubliez jamais que sa contribution à lui, c'est que le soir, dans une salle, il y a des gens qui sont garés dans un parking, qui ont payé des babysitters, et qui vont être, par exemple, 6000 dans une salle, comme le Zénith. Et c'est ça que j'adore les artistes, et qui vont vibrer. Un humoriste, qu'on aime ou pas ses blagues, ben n'empêche qu'il fait éclater de rire 6000 personnes. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un qui critique cette personne, je dis, et toi, t'as fait rire combien de personnes hier? T'as pas le droit à la parole. Donc, ce que je veux dire, c'est que la question du sens, elle est assez facile, en fait. On a l'impression que c'est une question très compliquée, mais c'est une question facile. Et c'est un psychiatre qui s'appelait Frankl, qui est une grande référence mondiale, qui est mort maintenant, qui est à New York, et qui était dans les camps de concentration. Et qui dit, bah, on s'est posé la question du sens de la vie. Puis la réponse, en fait, on s'est rendu compte que ce qui donnait du sens à notre vie, c'était d'en donner aux autres. Donc si vous aidez une vieille aveugle à traverser, bah, elle va se dire, tiens, je suis sur quelle planète? Dis donc, c'est cool, il y a des gens qui nous aident à traverser, c'est une chouette planète. Et vous, quand vous allez vous coucher le soir, c'est à quoi j'ai servi? Ben, j'ai donné le sourire à une dame avec qui j'ai parlé 4 heures. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui a aidé une dame vieille et aveugle à traverser. Ils ont passé 4 heures ensemble. Il faisait de la musique, il lui envoyait son DVD. Et moi, je me suis dit, quand je serai vieux aveugle, je ferai comme elle. Elle restait pas chez elle, en fait. Elle sortait dans la rue, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait d'elle. Et elle posait les bonnes questions. Parce qu'en fait, quelqu'un, mon pote, il l'a aidé. Je me demandais comment ça a démarré. Il l'a aidé, puis elle a commencé à lui toucher les muscles. Vous êtes costaud, vous faites quoi? Il a dit musicien, et c'est parti. Et elle, tous les jours, elle faisait ça. Ça se voyait. Donc finalement, tout dépend de nous. Voilà. Même quand je serai vieux et aveugle, je sais que je serai bien parmi les autres.
Ton rêve?
Ben, mon rêve, c'est que le monde aille mieux, que le monde soit meilleur. Mais je suis optimiste. Par exemple, je déteste le monde virtuel, je déteste Internet, je déteste Twitter, je trouve que c'est absurde ce qui s'y passe. Mais je sais pas pourquoi je pressens que le salut va passer par là. Et quelqu'un tout à l'heure l'a dit. C'est-à-dire que finalement, ce truc de l'immédiateté, du buzz, qui est un mot horrible, de l'insolite, qui est absurde, quand demain des gens, et de la jeune génération, je l'aime beaucoup, ils vont décider que toutes ces idées qui sont des mots aujourd'hui, d'accord, on peut les mettre en images. Et on peut toucher les gens par la question de l'émotion, justement. Et qu'il y aura des petites vidéos comme des trucs virales qui vont diffuser, etc. Je suis sûr que les prises de conscience, elles peuvent exister. Moi, à l'échelle de ma vie, j'en ai vu des prises de conscience. Quand j'étais petit, il y avait 10 000 morts par an sur les routes. Aujourd'hui, c'est 4 000. Alors qu'on pensait que ça ne pouvait pas baisser. Donc, il y a eu des prises de conscience. Donc, c'est juste que l'humanité essaie des choses. Ce qui me rend optimiste, c'est que j'ai été voir des humains à moins 35 degrés, donc... en Sibérie, où c'était gelé sur 2-3 mètres, il n'y avait rien qui poussait. J'étais sur des plateaux en Bolivie où il y avait de la terre salée, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de brins d'herbe. Et j'étais dans la jungle où les gens ils ne possédaient rien, ils allaient tous les jours chercher de l'argent, ils ne pouvaient pas stocker, ils n'avaient même pas, ils n'étaient pas ni agriculteurs, ils étaient chasseurs-cueilleurs. Et j'ai découvert la capacité d'adaptation de notre espèce. Alors bien sûr que c'est de nos ancêtres dont je parle. D'accord? Parce que eux, c'est nos ancêtres en fait, hein, les peuples autochtones, c'est comme nos ancêtres. Mais la nature humaine. C'est-à-dire que moi, je crois que oui, on a raison de tirer des sonnettes d'alarme. Oui, on a raison d'avoir peur. Mais j'ai extrêmement confiance en l'espèce humaine. Elle va se débrouiller. Alors, bien sûr que peut-être ce sera un peu tard. Il y aura des famines. On n'échappera pas au réchauffement. On n'échappera pas à tout ça. Mais je ne peux pas croire que l'espèce va s'éteindre. Ça paraît fou de dire ça. Je devrais pas le dire parce que on va me dire oui, mais si tu leur dis ça, ils vont pas faire d'efforts. Si, si. Je crois qu'il va y avoir des prises de conscience parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y a pas de débat, et quand on voit que ce qui tue le plus dans les sociétés occidentales, c'est la solitude, ben moi je me retrouve dans le désert, où franchement quand vous êtes là, vous dites « Waouh, on n'est pas nombreux !» Et le mec il vous regarde dans les yeux et dit « Ah mais moi je me sens jamais seul !» Quand vous êtes à 5000 mètres d'altitude avec Dolma, qu'elle cultive de l'orge en septembre pour ensuite tenir tout l'hiver, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne te reste pas assez ?» Elle me dit « Je demande au voisin !» Donc en fait sa réponse est évidente, elle dit même pas « solidarité !» C'est une évidence. Donc, les crises, c'est terrible, il y a beaucoup de souffrance, ça réveille les peurs, la peur de l'autre, etc. Et en même temps, et comme je suis optimiste, j'ai décidé de croire en ça, en même temps, ça développe la coopération, ça développe le lien, la solidarité, et voilà. Et il suffit d'y goûter un tout petit peu pour découvrir qu'on peut être vite addict et accro à la coopération, au lien et à toutes ces choses-là.
Comment tu l'aperçois, toi, cette transition? Et qu'est-ce que tu as envie de cultiver comme, qu'est-ce que tu as envie de cultiver pour l'avenir?
Donc moi, je cultive l'optimisme et la bienveillance. Et même la gentillesse, pour faire simple. Ça se cultive, hein, parce que je suis comme tout le monde. Hein, quand on me fait chier, je peux péter les plombs. Hein, donc je laisse personne m'emmerder, en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Parce que j'ai compris que même les cons font de leur mieux. En fait, moi, au début, je voulais les éduquer. Tous les gens malveillants, les gens agressifs, les gens cyniques, les gens... Je voulais leur expliquer la vie, mais en fait, j'ai compris que je perdais mon temps. Donc, je les évite. C'est comme ça, hein, c'est presque lâche, mais au fond, je préfère créer des oasis de gens super. Parce que tous ceux qui viennent dans mes équipes, quand j'ai la chance de travailler avec des gens... Je fais le tour du monde depuis 10 ans avec les mêmes personnes, et vous imaginez, on s'est jamais engueulé à moins 35 degrés, ni quand il pleuvait en permanence. On s'engueulera jamais, c'est au-delà de l'amitié, c'est pour la vie. Donc, le secret du bonheur, c'est le lien, donc je cultive le lien. Voilà.
Bon bah ici on est plutôt pas mal placé pour le cultiver, on se sent bien, aux Amanins. Je vais revenir au voyage, parce que bon, on parlait avant un petit peu de terre en inconnu, le voyage, qu'est-ce que toi ça t'a apporté? Parce que souvent tu te retrouves dans des contextes radicalement différents du tien, avec un mode de croyance et de pensée très différent. Définis-moi le voyage, qu'est-ce que c'est que voyager?
Bon, y a d'abord autant de manières de voyager que de personnes, et ce que je crois c'est qu'il faut surtout pas se forcer. Il n'y a pas les aventuriers, les casaniers, c'est pas vrai. Et en fait, il y a des gens qui ont... On se balade avec nos peurs, nos angoisses et nos envies. Donc il y a des gens qui vont adorer l'inconnu, j'en fais partie, c'est une chance. D'accord ? Moi je connais les gens, moi je connais les endroits et puis je suis heureux. Même si j'ai les mêmes amis depuis 30 ans, hein, ceux-là ils sont toujours là. Mais la découverte, c'est jusqu'à mon dernier souffle, c'est une nature, c'est comme ça. Bon. Et après, il y a des gens qui ont peur de monter dans un train quand on leur fait une surprise. Il faut respecter ça aussi. Il faut accepter qu'on n'ait pas tous fait pareil. Après, ce que je sais, c'est que qu'est-ce que c'est le chouette truc du voyage? C'est qu'à partir du moment où on est dans un endroit qu'on connaît pas, on est super attentif. Alors que quand on marche dans une rue qu'on connaît, on regarde rien. Dès que c'est une rue que vous connaissez pas, prenons l'exemple du Japon pour prendre un truc extrême. Waouh! On comprend même pas les panneaux, on comprend pas la langue. Et alors, du coup, vous êtes en pleine conscience. D'accord? C'est une formule qui est pas de moi. C'est très à la mode. J'espère que ça va devenir encore plus, puisqu'il y a une méditation qui s'appelle la méditation de pleine conscience. Alors. Ouais, il y a Thich Nhat Hanh, il y a John Kabat-Zinn, il y a Christophe André en France. Et donc, en fait, ces gens-là nous apprennent une technique à vivre l'instant présent. Parce que finalement, ce carpe diem, qui est très joli philosophiquement, il est très compliqué neurologiquement. Notre cerveau, il n'est pas tellement fait pour être dans l'instant présent. Il paraît qu'on a un cortex préfrontal qui est devant, qui organise tout le temps, qui pense toujours à après. Donc, moi, je crois que l'existence, c'est de l'instant présent. Quelle est la vision du monde qu'on peut avoir? On peut lire et regarder des images, mais on peut juste regarder autour de nous. Et qui a raison, qui a tort? Il y a 7 milliards d'habitants, il y a 7 milliards de points de vue. Nous, on est au milieu des oiseaux, en train de discuter de choses profondes, on s'écoute, on se regarde, on échange. C'est un moment agréable. Évidemment qu'il y a d'autres gens ailleurs qui souffrent, mais moi, je ne me rends pas compte que je suis là où je suis. Si chacun essaye de vivre un moment chouette, ben, il y aura 7 milliards de moments chouettes. Alors encore une fois, ça ne marche que quand on a à manger, quand on a un toit sur la tête. Encore une fois, mais on connaît tous des gens qui ont un toit sur la tête et qui ont à manger et qui râlent tout le temps. Donc c'est à eux qu'on s'adresse, évidemment.
Ils sont français, ceux-là, non?
Bah oui, parce qu'on dit que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Alors j'ai beaucoup de mal à côtoyer ces gens-là. C'est-à-dire qu'autour de moi, il n'y a pas de râleurs. J'ai éradiqué les râleurs. C'est horrible, hein? Ils existent, mais je vous les laisse.
En même temps, il y a suffisamment de personnes pour pouvoir s'entourer des gens qui nous font avancer.
Mais exactement. Et ça, c'est un truc important aussi de se le dire. Moi, je le dis à mon fils qui a 17 ans, je dis, n'oublie jamais de te poser la seule question qui vaille, en fait, dans l'existence. Puisqu'il n'y a que l'instant présent qui existe, le passé n'existe pas, on est d'accord, on peut pas y aller si on voulait. Le futur n'existe pas, il n'y a que le présent. Donc le seul truc qu'on a à faire, c'est d'observer comment on se sent dans le présent. Alors si je me sens pas bien parce que je sais pas, il y a une personne qui est un peu agressive, etc. Bah soit je lui fais remarquer, soit je m'en vais. Et si je me sens pas bien dans ce restaurant, je me lève. Si je me sens pas bien avec ces gens, je les quitte. Si je me sens pas bien dans ce travail, je change de travail, même si ça fait peur aujourd'hui de changer de travail. Mais il vaut mieux travailler dans un endroit où on gagne un peu moins d'argent, mais on est content d'y aller le matin parce qu'on est content de retrouver ces gens qui ont une bonne énergie, que de bosser et de gagner plein d'argent avec des gens... qu'on n'aime pas, dont on n'aime pas les valeurs, avec qui on se sent pas bien.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.